France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. S'agissait-il seulement de l'expression d'une forme d'amitié virile? Donald Trump a beau répéter ce matin que tout va bien après que les tensions entre lui et Elon Musk ont éclaté de manière spectaculaire la veille, les critiques échangées n'en restent pas moins extrêmement virulentes. On reviendra sur le pouvoir de nuisance croisé entre les deux hommes. On se rendra en Russie après que l'armée du Kremlin dit avoir frappé plusieurs sites militaires en riposte aux récentes attaques de Kiev. On se demandera par ailleurs comment l'un des pires mafieux sanguinaires de Cosa Nostra a réussi à sortir libre de prison. Et puis l'actualité en France, cette fois-ci, c'est tout d'abord la victoire d'une courte tête d'Olivier Faure pour un quatrième mandat à la tête du PS, une famille politique qui reste toutefois affaiblie et au défi, surtout, on le verra, d'élaborer une stratégie pour les élections municipales et présidentielles. Enfin, avec notre invité, on tâchera de savoir ce qu'il y a à attendre ou pas du comité interministériel sur la politique de la ville présidé aujourd'hui par François Bayrou. Leur idylle aura été aussi improbable et intense que leur rupture mémorable et pathétique à la fois. Hier, dans une surenchère digne des plus mauvais mélodrames, Donald Trump et Elon Musk se sont donc publiquement déchirés, s'accusant de folie pour l'un, d'ingratitude pour l'autre. Un échange à grand renfort d'attaques violentes et personnelles, voire d'accusations tendancieuses, qui plus est ostensiblement exposées au reste du monde. Alors, au-delà du spectacle, ce divorce est-il de nature à bouleverser une des dynamiques les plus puissantes ayant façonné le second mandat de Donald Trump? Il semblerait que toute cette joute entre l'homme le plus puissant du monde d'un côté et celui le plus riche du monde de l'autre ait eu pour prétexte un désaccord sur le projet de loi fiscale actuellement examiné par le Congrès visant à promouvoir la plupart des priorités de politique intérieure et susceptible d'ajouter des milliers de milliards à la dette nationale au cours des 10 prochaines années. En réalité, et quelles que soient donc les intentions de l'un et de l'autre, cette rupture Isabelle Labéry vient surtout mettre en évidence les risques politiques et financiers auxquels chaque homme pourrait désormais être confronté.
Elon Musk a d'abord un pouvoir de nuisance politique. Lui qui a investi 275 millions de dollars dans la campagne de Donald Trump fait désormais tout pour saper ses positions. Sur son réseau social X, il approuve le message d'un fan qui réclame la destitution du président et demande à ses 220 millions d'abonnés s'ils veulent un nouveau parti qui représente vraiment les 80% d'Américains au centre de l'échiquier politique. Pas sûr d'ailleurs qu'il verse comme prévu les 100 millions de dollars promis avant l'an prochain à des groupes contrôlés par l'équipe du président. Si la rupture entre les deux hommes est consommée, Elon Musk pourrait aussi déstabiliser le coûteux projet de bouclier antimissile voulu par Donald Trump, dans lequel SpaceX doit procéder au déploiement de milliers de satellites. A l'inverse, Donald Trump peut lui aussi porter un coup sévère aux affaires d'Elon Musk. Hier, ses menaces de supprimer les subventions et les contrats fédéraux avec Tesla ont fait chuter l'action de 14%. Et si les États-Unis renforcent leur politique favorable aux combustibles fossiles, Tesla est susceptible de perdre plus d'un milliard de bénéfices par an, selon les comptes des analystes de JP Morgan. En matière d'aérospatiale, enfin, rien n'empêche Donald Trump de limiter les ambitions de SpaceX en soutenant des entreprises concurrentes comme Blue Origin de Jeff Bezos, qui pourrait devenir le nouveau bénéficiaire de contrats avec la NASA et le Pentagone.
Simple, cette fois-ci comme un coup de fil.
Après qu'il a annoncé avoir parlé avec Vladimir Poutine mercredi dernier, Donald Trump a fait savoir s'être entretenu hier avec Xi Jinping. Alors il est peu probable que cet échange soit le prélude à une nouvelle bromance. On ne sait rien d'ailleurs de ce que les dirigeants des deux plus grandes économies de la planète se sont dit réellement. Tout juste, le président américain a-t-il précisé sur son réseau social avoir eu, je cite, une super conversation avec son homologue chinois, sans pour autant dévoiler d'avancées concrètes. Quand bien même l'Ukraine aurait toutes les raisons d'être satisfaite de la réussite de sa spectaculaire opération Toile d'araignée, en même temps que de l'humiliation infligée à son agresseur, non seulement cette réussite ne change que peu de choses au rapport de force toujours en faveur de la Russie, mais elle ne lui apporte surtout aucun réel répit sur le champ de bataille. Moscou, qui n'a jamais eu la moindre intention de céder sur ses revendications maximalistes, a surtout trouvé dans cette attaque une raison supplémentaire en réalité de poursuivre son offensive, tout en accusant Kiev de vouloir ainsi saboter les pourparlers de paix. C'est ainsi que la nuit dernière, l'armée de l'envahisseur a lancé une nouvelle salve de massive de drones et de missiles balistiques, faisant au moins 4 morts dans la capitale ukrainienne. Alors faut-il y voir le début de la riposte vengeresse annoncée par Vladimir Poutine? Les précisions depuis Moscou de Sylvain Tranchet.
La presse russe et les blogueurs militaires, très populaires sur la messagerie Telegram, ne sont pas tous d'accord. Pour certains, l'heure des représailles a bien sonné. Le châtiment est tombé, titre ainsi le journal Argumenti Facti. Pour d'autres, il ne s'agit que d'un raid de plus sur l'Ukraine, mais tous s'accordent pour dire qu'il était massif. Au moins 407 drones, 44 missiles, c'est beaucoup plus que d'habitude, pourrait-on dire, surtout en ce qui concerne le nombre de missiles, comme si l'armée russe avait voulu montrer qu'elle n'avait pas souffert de la destruction de plusieurs avions bombardiers dimanche dernier. À Moscou, on affirme qu'une batterie de défense antiaérienne Patriot a été détruite à Kiev. On insiste sur la destruction d'une usine aéronautique à Loutsk, dans l'ouest du pays, la seule capable d'entretenir les réacteurs de MiG-29, affirment les experts militaires. On note surtout que les frappes de la nuit dernière ont de nouveau visé le système électrique et frappé plusieurs voies ferrées comme une réponse aux divers sabotages constatés sur le réseau ferroviaire russe ces derniers jours. Comme souvent, les victimes civiles sont passées sous silence. Les rares à en parler, ici, accusent Kiev de se servir de sa population comme bouclier humain.
Comment sortir de l'impasse mortifère où l'a conduit sa guerre de représailles totale menée contre la bande de Gaza? Là encore, les conditions inconciliables imposées par le gouvernement israélien au Hamas empêchent toute avancée diplomatique et tout espoir de mettre fin au carnage dans l'enclave palestinienne. On va vers un nettoyage ethnique, a même dénoncé ce matin l'ancien ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Et c'est précisément dans ce contexte qu'une grand-mère française a décidé, elle, de se dresser contre les autorités israéliennes. Deux de ses petits-enfants ont été tués lors d'un bombardement à Gaza dans la nuit du 23 au 24 octobre 2023. Elle a donc décidé de porter plainte avec constitution de partie civile pour homicide volontaire en tant que crime de guerre, crime contre l'humanité et crime de génocide. Elle espère obtenir la désignation d'un juge d'instruction et de fait la nationalité française des victimes pourrait déclencher la compétence directe de la justice française et l'amener à devoir se prononcer donc sur ces accusations de génocide catégoriquement rejetées aujourd'hui par l'État hébreu. Nolwenn Lejeune est allé à rencontrer Jacqueline Rivaud. Témoignage.
Dans son petit salon de Vitry-sur-Seine, il y a deux photos. Celle d'une petite fille aux boucles brunes et d'un petit garçon à l'air espiègle. Deux photos que Jacqueline couvre du regard.
C'est pour ça que je les ai mis là. On sent qu'ils sont heureux, ils ont des sourires rayonnants. Baïda, il fait un peu sérieux, c'est normal, c'est un garçon. Jana, elle s'éclate, quoi. Elle allait avoir 10 ans et... Obaïda, il venait d'avoir 6 ans.
Ils ont été tués dans la nuit du 23 au 24 octobre 2023, au nord de la bande de Gaza, dans le bombardement d'une maison où ils s'étaient réfugiés, avec leur petit frère Omar et leur mère Yasmine, tous deux grièvement blessés. Yasmine, la fille unique de Jacqueline, partie faire de l'humanitaire à Gaza où elle a rencontré son mari. Elle avait tenu à ce que ses 3 enfants aient la nationalité française, ce qui met Jacqueline encore plus en colère.
Pour tous les Français qui habitaient dans la bande de Gaza, le gouvernement français aurait dû les évacuer.
Alors face au drame qui perdure et qui empire sur place, elle a décidé d'agir avec la Ligue des droits de l'homme. Le but de la plainte, explique Ariel Halimi, son avocat, est d'appréhender les responsables.
Imaginez que ceux qui ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans des actes qui pourraient être qualifiés de crimes contre l'humanité ou de génocide sauront qu'en sortant des frontières d'Israël, ils pourront être arrêtés à n'importe quel endroit. Pas uniquement les dirigeants, mais n'importe qui aura d'une manière ou d'une autre participé, faut qu'ils le sachent.
Jacqueline sait qu'en déposant plainte, elle s'expose, mais elle prend ce risque.
Je pense beaucoup à Omar, qui ne comprend pas, qu'il ne verra plus jamais son frère et sa sœur, et qu'il en restera meurtri à jamais.
Un petit garçon, toujours sous les bombes à Gaza avec sa maman, et qui vient tout juste d'avoir 5 ans.
Un témoignage recueilli par Nolwenn Lejeune. Je précise par ailleurs que le parquet national antiterroriste français a lui décidé d'ouvrir une enquête pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité pour le blocage de l'aide à Gaza. Et puis, sous le bruit toujours incessant des explosions, plus de 130 médias et organisations de défense des journalistes ont demandé hier à l'État hébreu d'un accès immédiat et sans restriction de la presse à la bande de Gaza, à laquelle les correspondants étrangers, on le rappelle, n'ont toujours pas accès, sauf très rare exception depuis le 7 octobre 2023.
Après 25 années de prison et encore 3 supplémentaires de surveillance imposés par la magistrature, l'un des boss les plus sanguinaires de Cosa Nostra est cette fois-ci définitivement libre.
Oui, Giovanni Brusca, surnommé tantôt le porc, tantôt l'égorgeur, un mafieux à l'origine notamment de l'attentat contre le juge Falcone, condamné pour des centaines de crimes atroces commis en Italie dans les années 80 et 90, est en effet sorti de prison après avoir expié sa condamnation grâce à une réduction de peine accordée à ceux qui collaborent avec la justice, une loi, triste ironie du sort, voulue par Falcone lui-même et considérée comme indispensable pour démanteler les organisations mafieuses de l'intérieur. Bruno Duvic, bonjour.
Bonjour.
correspondant de France Culture à Rome, même si, en l'occurrence, le droit a donc été appliqué. Bruno, la première réaction dans la péninsule hésite entre colère et indignation.
Brusca, c'est l'homme qui a appuyé sur le détonateur le jour de l'attentat contre Giovanni Falcone. Cela fait un an, en réalité, qu'il a complètement retrouvé la liberté, mais l'information n'émerge qu'en cette fin de semaine. Il vit sous une nouvelle identité. La veuve d'un des gardes du corps de Falcone ne cache pas sa colère. Que va-t-on raconter aux enfants dans les écoles? Mais le juge qui l'a fait arrêter en 1996, Brusca était alors un homme rond, barbu, bouclé, dit comprendre la colère des familles, mais un État crédible respecte ses engagements. Reste la question, Brusca est-il un repenti sincère? Ses aveux ont permis des arrestations, des procès, des condamnations, mais selon le journal La Repubblica, les derniers mois, sa résidence surveillée avait été prolongée après qu'on avait découvert qu'il possédait des cartes SIM non autorisées. Et personne n'a oublié en Italie ce 23 mai 1992 près de Palerme, près d'une demi-tonne d'engins de mort avaient explosé au passage du convoi du juge Falcone. La douleur, écrit ce matin un spécialiste de la mafia, c'est ce qui reste quand le droit est passé.
Merci Bruno Duvic en direct de Rome. Après que le dirigeant d'extrême droite peroxydé Geert Wilders a décidé cette semaine de retirer son parti du gouvernement, faisant ainsi chuter la fragile coalition au pouvoir, la seule issue à la crise gouvernementale restait l'organisation d'élections anticipées. La date a été annoncée ce matin, ce sera le 29 octobre prochain.
Midi et 41 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Sans surprise, Olivier Faure a donc été réélu le premier secrétaire du Parti Socialiste. Il devance au second tour Nicolas Maillard-Rossignol d'une courte tête avec moins d'un point d'écart, 50,9% des voix. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour Thomas.
Autant dire que c'est loin et même très loin d'être un plébiscite pour celui qui va donc effectuer un quatrième mandat à la tête du parti.
À la tête d'un parti très affaibli, peut-on même ajouter, depuis l'arrivée d'Olivier Faure à la direction du PS en 2018, le parti a perdu 50 000 adhérents. Sa candidate à la présidentielle en 2022, Anne Hidalgo, a obtenu le score catastrophique de 1,7%. Et le Parti Socialiste est divisé sur sa stratégie et sa ligne. Le score d'hier, quasiment 50-50, en est une illustration. Faut-il renouer avec la social-démocratie réformiste, la culture du gouvernement, ou faut-il maintenir le lien avec une France insoumise adepte de la rupture? Olivier Faure semble hésitant sur cette question. Il a été l'artisan du rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon dans le passé. Désormais, il défend l'idée d'une primaire sans LFI allant de François Ruffin à Raphaël Glucksmann. Mais en attendant la présidentielle, il y a les municipales. Et Olivier Faure le sait bien, LFI a un pouvoir de nuisance. Un tiers des villes de plus de 100 000 habitants ont un maire socialiste à leur tête. Le PS a donc beaucoup à perdre. Son patron défend l'idée d'accord au cas par cas avec les insoumis ou au minimum des pactes de non-agression. Nicolas Maillard-Rossignol, lui, refuse tout accord avec LFI. Et puis il y a les législatives, la NUPES, puis le nouveau Front Populaire ont permis au Parti Socialiste de limiter les dégâts en 2022 et même de doubler son nombre de députés en 2024. Renoncer à un accord avec LFI dans le cadre d'un scrutin majoritaire, ce serait renoncer à bon nombre de sièges, à moins que la proportionnelle soit en vigueur lors des prochaines législatives.
Merci Antoine Marette.
Le gouvernement au chevet des enfants des quartiers populaires à Montpellier.
Près de deux ans après les émeutes qui ont en partie enflammé ces quartiers, le Premier ministre François Bayrou et huit de ses ministres sont attendus sur place aujourd'hui pour y présider un comité interministériel des villes placé sous le signe de l'enfant dans la ville. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Alice Daquin, chercheuse post-doctorante à l'Université d'Amsterdam, spécialiste des liens entre la présence de l'État et les dynamiques familiales dans les quartiers populaires. Bonjour madame.
Oui, bonjour.
Alors les mesures exactes de ce plan ne seront connues que cet après-midi, mais la ministre déléguée à la ville a déjà laissé entrevoir qu'elle en serait la logique. Selon elle, investir dans l'enfance est fondamental aujourd'hui pour non seulement l'épanouissement des enfants, bien entendu, mais aussi l'apaisement de la société, réduire la délinquance. Comment percevez-vous cette forme d'articulation donc énoncée par la ministre ?
Alors écoutez, on peut dire déjà que cette annonce, elle fait du bien quelque part, puisqu'elle propose un changement de focal par rapport au discours suite aux révoltes en fait qui ont surgi en 2023 dans les banlieues, tout simplement parce qu'à l'époque la focale était vraiment mise sur la question des parents et notamment de la défaillance parentale. Et là quelque part, le thématique de la jeunesse, elle propose voilà de décaler la responsabilité, de sortir d'un registre stigmatisant. Donc je dirais tout simplement qu'elle fait un peu du bien. Après entre nous, la thématique de la jeunesse, c'est pas une nouveauté de la politique de la ville, ça a toujours été un enjeu fort, un enjeu d'inquiétude, un enjeu de mobilisation. Donc on attend de voir les mesures concrètes, les moyens, les dispositifs qui vont être mis au service de ce nouvel objectif. Mais ce que je peux dire à partir moi de mes enquêtes de terrain, c'est que les politiques de la ville ont toujours eu du mal à inviter les jeunes en tant que partenaires à part entière autour de la table de ces politiques et à vraiment créer des espaces de co-construction avec la jeunesse. Donc il va y avoir un enjeu de traduction de ces orientations nationales dans les équipes de terrain et je veux dire dans le quotidien concret de la politique de la ville.
Est-ce que ce prisme donc familialiste que vous rappeliez tout à l'heure ne risque pas d'occulter peut-être d'autres acteurs de la politique de la ville ?
Alors oui, c'est ressorti très fortement, mais en fait, on a une focalisation sur la thématique de la famille, qui en fait, voilà, est propre à ces catégories de quartiers populaires et qui sous-entend en fait des logiques de défaillance, c'est-à-dire qu'on aurait dans ces quartiers des modèles familiaux culturellement en décalage ou dont les structures, par exemple la monoparentalité, seraient la cause finalement d'une défaillance parentale, c'est-à-dire d'une incapacité à éduquer correctement les enfants et à les tenir, pour reprendre des vocabulaires utilisés par les membres du gouvernement suite aux émeutes. Donc effectivement, il y a un décalage, je dirais, entre une focalisation sur la question familiale et les questions en fait de ségrégation sociale et d'inégalité en fait qui touchent ces jeunes dans la discrimination à l'accès à l'emploi, dans les contrôles de police quotidiens. Donc finalement, placer la focale sur la famille, c'est pas anodin. Ça cible une partie de la population et ça passe à côté de certains enjeux, quoi.
Vous évoquiez à l'instant les contrôles de police quotidiens. J'évoquais en introduction cet aéropage de ministres qui accompagnera cet après-midi François Bayrou. Un homme toutefois brillera par son absence, c'est Bruno Retailleau. Et forcément, cette absence du ministre de l'Intérieur interroge tant la vie de certains de ces quartiers prioritaires de la politique de la ville dépend aussi du rôle qui occupent les forces de police et puis les réseaux criminels liés au trafic de drogue. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux justement harmoniser l'action publique entre des mesures de développement telles que celles qui seront annoncées aujourd'hui, puis des mesures sécuritaires ?
Alors oui, sur le terrain, c'est une contradiction constante de mes observations. C'est qu'on a d'un côté cette logique d'intervention sociale avec une ADN de participation, de co-construction avec les parents, et de l'autre côté, un discours policier qui s'est ravivé ces dernières années avec un discours très très fort et très accusateur, notamment envers les maires de quartiers populaires. Et finalement, un peu en décalage avec les réalités du terrain. C'est-à-dire que moi, ce que j'observe dans mes études, notamment dans les quartiers nord de Marseille, c'est des mères qui me disent « Moi, si j'ai raté l'éducation de mes enfants, j'ai raté ma vie ». Et donc, quelque part, on a deux branches de l'État distinctives qui correspondent à des priorités de gouvernement contradictoires entre, d'un côté, le soutien à la parentalité et, de l'autre, une mise en accusation des parents et une logique répressive qui met l'accent, au contraire, sur des logiques de sanctions et de contrôle à répétition dans les quartiers populaires. Donc, il y a un véritable enjeu, à mon avis, à la politique de la ville, à réclamer la thématique de la sécurité et à ne pas l'abandonner à une action policière, pour l'instant, déconnectée des préoccupations des familles.
Et il en terminera par ces mots. Merci beaucoup Alice Daquin, donc chercheuse post-doctorante à l'Université d'Amsterdam, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
La responsabilité de l'État dans l'effondrement de la biodiversité sera-t-elle à nouveau reconnue par la justice ?
Dans un peu moins d'une heure maintenant, la Cour d'appel administrative de Paris se penchera sur le recours de l'État dans l'affaire dite « Justice pour le vivant » du nom de ce collectif de 5 organisations qui en 2023 avaient accusé le gouvernement d'être responsable de la contamination de la biodiversité par les pesticides. À l'époque, le tribunal leur avait donné raison et pour cette nouvelle audience, eh bien le porte-parole de l'association Biodiversité sous nos pieds espère que la justice ira même plus loin encore, notamment en contraignant peut-être le gouvernement à revoir ses méthodes d'évaluation lors de l'autorisation d'un pesticide. Dorian Guinard répond à Emeline Bonavent.
Il est important que l'État, s'il est condamné, exécute cette décision de justice. C'est une décision qui permettra une véritable protection de la biodiversité, à la fois dans la prise en compte des effets sur les espèces non ciblées. Il y a aujourd'hui une impertinence totale des espèces qui sont choisies pour faire les tests, notamment pour les pollinisateurs ou les vers de terre. Il faut changer ça. Il faudra faire des tests aussi sur les larves. Il faut prendre en compte aussi les effets cocktails des produits entre eux, typiquement les effets synergiques entre un herbicide, un insecticide et un fongicide. Aujourd'hui, tout ça n'existe pas. Et donc, l'ANSES et l'État aura 12 mois pour mettre en place ces protocoles qui sont conformes avec ce que dit aujourd'hui la littérature scientifique académique. Le droit aujourd'hui permet une réforme des protocoles d'évaluation. Je pense que l'urgence écologique l'impose. Il est temps que l'État prenne avec sérieux ce que dit à la fois le droit de l'Union européenne et ce que dit la science académique.
Dorian Guinard, donc porte-parole de l'association Biodiversité sous nos pieds, il répondait à Emeline Bonavent. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Ensoleillé au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon, nettement plus instable partout ailleurs. 5 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont même été placés en vigilance orange, ainsi que la Savoie et la Haute-Savoie en raison d'un épisode orage marqué. Quant aux températures, elles seront comprises entre 16 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Balu pour le prochain journal de la rédaction.